tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
La plus belle.
Hola, bonsoir, vous êtes à l'écoute de Radio Canu, il est l'heure du Canu Info de ce jeudi 28 octobre 2021 et au micro vert. Pomme, nous avons Laurent ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir à toi. Nous allons mettre plein de choses à la poubelle ce soir, et en particulier Total Energy, il me semble, avec toi, Laurent. Hein, ça devrait bien passer. Nous partirons du côté des lobbyistes, des complotistes, et puis du côté d'Amnesty International et de la Cisjordanie pour une petite partie internationale. Nous parlerons des multinationales du médicament. Et puis aussi, un sujet un peu large, hein, vous verrez, sur les consommations et pratiques culturelles aujourd'hui entre spectacle vivant, cinéma, Netflix, France Loisirs et un petit peu peut-être de BD. Et puis nous irons, histoire de vomir un petit coup, du côté de l'homophobie portée par les cathos. Et puis nous parlerons peut-être après de youtubeurs qu'il n'en faut plus des comme ça. Voilà, voilà, mais tout de suite avec toi, nous commençons ce Canu Info avec Total Energy.
Oui, on va commencer, je vais faire un gros sujet là sur Total et Total Energy, parce que c'est le nouveau nom, qui a donc changé de nom pour reverdir et redorer son image. Alors on va commencer par le côté répressif, totalitaire, hein, de la multinationale, et on va aller en Ouganda, parce que c'est la dernière affaire en date qui est sortie dans les médias. On va revenir à vendredi dernier, on était le 22 octobre, 6 salariés de l'ONG ougandaise Afiego, c'est l'Institut africain pour la gouvernance de l'énergie, ont été arrêtés et sont restés quand même en détention 48 heures alors que Afiego s'acharne, on va dire, à dénoncer les impacts environnementaux et humains catastrophiques d'un énorme projet de Total en Ouganda qui s'appelle Tilenga ou Tilanga, je ne sais pas comment ça se prononce, et donc du coup l'État accentue les menaces contre les opposants au projet. C'est un vrai coup de pression qui est mis contre ces militants et ces militantes à ce projet de Total, donc qui a vraisemblablement des amis au niveau de l'État ougandais. Thomas Barthes, le porte-parole de l'ONG française que vous connaissez tous et toutes, Survie, hein, qui dénonce la France-Afrique, on va résumer ça comme ça, explique que ces arrestations témoignent d'un effort, je cite, coordonné pour faire taire, créer la peur, désorganiser et harceler les défenseurs des droits humains opposés au projet pétrolier de Total dans le pays, donc en Ouganda, ça c'est sûr. Loin d'être isolé, ces arrestations montrent une répression croissante. Montre qu'une répression croissante pèse sur les organisations et notamment les organisations écologiques. On rappelle qu'en mai dernier, Maxwell Atuhura, qui est membre de la même ONG, avait déjà été arrêté et détenu 48 heures par la police ougandaise. Autant de voix réduites au silence, c'est le but, alors qu'un projet vraiment très dangereux pour les populations et pour l'environnement, être en train de s'établir en Ouganda. Rappelons que, un petit peu comme que ce méga projet donc qui s'appelle Tilanga consiste à l'exploitation assez classique hein, de nouveaux gisements de pétrole autour du lac. Alors là, c'est autour d'un lac, le lac Albert. Pétrole qui sera acheminé ensuite par oléoduc pour aller en Tanzanie. Comme le dénonce pas mal d'assauts de lutte contre l'environnement, dont Afyengo, ce projet va engendrer un déplacement massif de population. Donc les gens vont, les habitants et les habitantes vont se retrouver dépossédés de leurs terres. Or, en fait, ils vivent de ces terres, hein, faut le savoir. De plus, il y a des risques importants de pollution au niveau du lac et puis après tout le long du trajet de l'oléoduc avec les différents accidents qu'on connaît sur les oléoducs. Et en plus, alors où le réchauffement climatique inquiète toutes les populations et notamment les populations de l'Ouganda, les gouvernements, dont le gouvernement ougandais, continuent l'exploitation d'encourager l'exploitation des énergies fossiles. Et là intervient d'ailleurs, c'est pour ça que Survie intervient, le gouvernement français, puisque Macron a quelque part, je vais vous expliquer comment, donné son soutien à ce projet. Alors ça a été démontré dans un rapport en fait qui a été publié en octobre, enfin début du mois, par les Amis de la Terre France, l'Observatoire des multinationales et bien évidemment Survie dont on parle à l'instant. Autour des enjeux de Total, en fait, le président Macron a envoyé une lettre à son homologue ougandais affirmant et garantissant le soutien de Macron, donc de l'État français, au sujet des projets pétroliers de Total, alors qu'il y avait déjà de la polémique, il y avait des banques qui s'étaient retirées du projet, et voilà, c'était vraiment un soutien gratuit à la multinationale de la destruction de la planète qu'est Total. Donc, on en est là pour tout ça. Un vrai désastre climatique potentiel hein, d'exploiter de nouveaux gisements de pétrole. C'est ce que fait donc Total en Ouganda. Et ça se voit malgré le greenwashing de Total, dont on reparlera tout à l'heure. En attendant, Total s'enrichit de plus en plus, car Total Energy, donc le nouveau nom, a profité à plein de la remontée des cours des hydrocarbures, en particulier de la flambée historique hein, des cours du gaz, qui alimente une petite crise énergétique en Europe. Total a vu son bénéfice se multiplier par 23 au troisième trimestre 2021, donc le trimestre en cours. On constate une fois de plus que qu'il n'y a pas que le prix de l'essence qui intervient. On constate une fois de plus que c'est grosso modo toutes les énergies qui vont avoir un impact sur nos dépenses et qui enrichissent en même temps les multinationales de l'énergie et notamment la Total. Les bénéfices devraient pour le troisième trimestre être aux alentours de 4,6 milliards de dollars. Non, non, milliards. C'est quand même un truc énorme. La principale explication, on l'a compris, hein, c'est la remontée du cours des hydrocarbures, notamment du gaz. Total est très impliqué hein, dans notamment le transport et la gestion du gaz sous sa forme liquéfiée, on appelle ça le GNL. Cette flambée des cours qui pose problème à pas mal de gens, hein, tout en Europe, hein, des gens qui sont un peu limites en termes de pouvoir d'achat, puisque ça se traduit par soit on chauffe moins les logements, soit on dépense plus pour le chauffage. Alors ça, on parle du chauffage, mais ça a un impact aussi indirect hein, sur l'électricité. Ça oblige même certains gouvernements, comme le gouvernement français, à intervenir pour éviter des explosions sociales, des manifestations, des revendications. Alors, face à ça, on a une crise européenne. Les dirigeants se sont réunis, ont discuté, et ils sont pas du tout d'accord sur comment faire pour atténuer quelque part ces augmentations. Donc on l'a vu ce qu'a fait Macron en donnant une prime de 100 euros à tous ceux qui avaient moins de 2000 et quelques 2400 euros de salaire net, etc. Et en fait, ils sont tous quand même d'accord sur un truc. Et c'est ça qui est le pire, c'est qu'ils ne mettent jamais en cause les entreprises de l'énergie, parce que en fait, l'augmentation des factures, elle pourrait être ramenée à un coût normal, juste en demandant à Total d'arrêter de faire un peu moins de bénéfices. Hein. Alors, on remet surtout pas ça en cause, et encore moins le système capitalisme et son système là, de prix fixé par l'offre et la demande, et qui produit ce genre de phénomène qu'on a du mal à contrôler dans des États capitalistes et libéraux. Alors malgré tout ça, le Total communique de manière assez particulière puisqu'ils ont dit, je cite, Malgré la flambée des cours, nous garderons notre discipline sur les coûts. Laissant entendre qu'en fait, ils vont pas augmenter les salaires de leurs salariés, ils vont pas donner de primes. Non, ils gardent le bénéfice pour les actionnaires et un petit peu pour l'investissement. Et on va parler d'investissement puisque ils annoncent 13 milliards de dollars pour 2021, dont 3 milliards consacrés aux renouvelables. C'est-à-dire 23% pour le renouvelable, 77% pour les énergies polluantes. La Total qui fait semblant de changer, en fait, non. Hein, Total ne change pas. Si on reprend sur 2015-2020, 90% des dépenses d'investissement de Total étaient vers des énergies polluantes et destructrices de la planète. Et dans les années qui viennent, 2026-2030, Total prévoit d'investir toujours 80% dans le domaine des énergies polluantes et destructrices de la planète, c'est-à-dire le gaz et le pétrole. Voilà. Donc Total Energy concourt énormément au greenwashing, hein, on a repeint le logo en vert, tout ça. Mais en fait, ce n'est que du greenwashing. On pourrait même leur donner presque le prix Nobel du greenwashing à Total. Ou le prix Nobel du mensonge. Et maintenant, on va parler du mensonge de Total, puisque c'est une entreprise très polluante et qui a beaucoup manipulé ces 50 dernières années. On va revenir sur un rapport qui est sorti tout récemment et qui parle de l'attitude de Total depuis les années 70 pour contester les thèses liées au réchauffement climatique. Car ça fait 50 ans que Total connaît les dangers du réchauffement climatique. Un demi-siècle, hein, où cette multinationale du CAC 40 a tout fait pour attaquer les causes du réchauffement climatique, juste pour protéger ses intérêts financiers et en même temps avec les conséquences qu'on connaît, hein, sur la destruction de la planète. En fait, c'est une étude historique sur Total et Elf, hein, on rappelle qu'ils ont fusionné juste avant 2000, dirigée par différents chercheurs. On a Christophe Bonneuil du CNRS, Pierre-Louis Choquet de Sciences Po Paris et Benjamin Franta qui est à Stanford, et qui ont publié donc cette étude en Global Environment Change, une étude réalisée en grande partie à partir d'archives et d'entretiens avec les anciens dirigeants des deux entreprises. Et qu'est-ce qu'on apprend? Alors, ce que dit Christophe Bonneuil, il dit, ça fait 10 ans que les entreprises anglo-saxonnes les entreprises de l'énergie ont avoué avoir fait du lobbying contre les mesures environnementales. Mais en France, rien du tout. Et Macron et les autres politiques disent non, tout va bien, nos entreprises, elles sont clean. Et en fait, ce que démontre ce rapport, c'est que Total, Elf, et après Total Energy, ben c'est pas du tout ça. Alors ils vont nous expliquer, entre 65 et 89 par exemple, Total et Elf, qui sont pas encore fusionnés, n'abordent plus, pas une seule fois, la question des dérèglements ou du réchauffement climatique, ni en interne ni en externe. En externe bien sûr, hein, mais en interne non plus. Ils en avaient parlé avant, mais plus après. Même quand il y a des conférences internationales là-dessus, comme celle de Genève en 79. Donc là, pendant cette période-là, l'entreprise cache un petit peu ce qui se passe. Elle sait ce qui se passe. Hein. On a une note qui date d'avant 65 qui parle de l'impact environnemental de l'exploitation des énergies fossiles. Mais entre 65 et 89, ils taisent. Ils disent plus rien. Après, à la fin des années 80, au début des années 90, la situation change mondialement autour d'un intérêt plus fort pour la question climatique. Donc là, Total et Elf vont changer de stratégie et ils vont faire du lobbying. Alors ça va être au sommet de la Terre, à Rio en 92, ça va être à différents rendez-vous pour dire « mais le réchauffement climatique, il n'est pas dû à l'homme ». Le discours qu'on avait jusqu'à il y a une dizaine d'années, défendu par ces multinationales, dont particulièrement Total et Elf. Voilà. Le rapport explique tout le lobbying qu'il va faire. Parce que, en fait, on se rappelle, hein, Michel Rocard avait fait une proposition pour instaurer une autorité mondiale de l'atmosphère. Il y avait eu la Commission européenne qui avait une idée d'écotaxe à la fin des années 80. Il y avait eu tout ça qui commencer à se mettre en place et le lobbying commence. D'ailleurs, le lobbying est tellement fort, Strauss-Kahn va supprimer le projet d'écotaxe en 92. Hein, Strauss-Kahn qui est sensible aux multinationales et à l'argent. Ça, on le savait déjà. Et alors, si Strauss-Kahn, il y en a plein d'autres, en fait. Ils sont allés jusqu'au bout, au sommet de la Terre à Rio. Jean-Philippe Carouette, directeur de l'environnement chez Total, ça existe. Oui, c'est drôle, mais ça existe. Ou c'est cynique. Il écrivait dans le magazine de l'entreprise à propos du réchauffement climatique, et il va véhiculer ses propos tout le temps. Il dit, il n'existe aucune certitude sur l'impact des activités humaines, parmi lesquelles la combustion d'énergie fossile. Exactement le cœur d'activité de Total. Donc ça va aller Voilà, jusque, on va dire, au milieu des années 90, où là, Total commence à réfléchir à changer de stratégie, parce que le consensus scientifique est très fort sur l'impact des carburants fossiles, des émissions de CO2, sur les dérèglements climatiques, on dit plus réchauffement climatique. Et là, qu'est-ce que fait Total ? Il change de stratégie et il décide de faire du greenwashing. Et on a, depuis presque 20 ans, c'est monté en puissance, là, ces dernières années, c'est énorme, on a du verdissement de Total. Alors, on prend le logo, on le repeint en vert, on fait semblant, on achète des trucs, hein, d'énergie renouvelable, tout ça, mais ça reste une minorité, les investissements sont très faibles, mais on met que ça en avant pour montrer qu'on a changé. C'est aujourd'hui ce que fait Total. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs chez Total. J'aurais pu détailler encore plus, il y a beaucoup, beaucoup d'autres infos sur Total. Il y a une belle campagne qui s'appelle Totalement, avec un beau logo, sur justement ces mensonges des 50 dernières années où Total était au courant de l'impact de son activité sur la destruction de la planète et a tout fait pour lutter contre, comme je viens de vous expliquer un peu brièvement. Voilà.
Moi, je me méfie toujours des multinationales qui font beaucoup de publicité pour parler d'elles-mêmes. Total Energy a donc fait sa pub avec ce changement de nom, et Total nous fait plus de la publicité pour nous vendre des produits. La plupart du temps, fait des pub pour montrer sous un meilleur jour dans la publicité. C'est assez symptomatique, hein, de ces multinationales qui, a priori, semblent vouloir dire qu'elles n'ont plus rien à vendre, alors que c'est bien évidemment tout le contraire. Alors, on va parler de toute autre chose maintenant. Vous avez donc entendu que en France, l'affaire coup d'État, c'est Rémi Daillet arrêté et placé en garde à vue. Cette fois pour projet de coup d'État et autres actions violentes. Il est donc dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il est soupçonné d'être à la tête de Honor et Nation, cette espèce de...
Ah bon ? Il est avec ce truc-là aussi ?
Ouais, bah ouais. Donc alors, je raconte tout de suite la fin. Hein. Son avocat, maître Jean-Christophe Basson-Larbi, dit « L'opposant politique Rémi Daillet n'a strictement aucun lien ni avec le groupuscule Honneur et Nation, ni avec les projets d'attentats que l'on prête à ses membres dont il n'a pas connaissance. » Bon, c'est toujours bien de le faire savoir. Toujours est-il qu'il est donc mis en garde à vue, qu'il y a une dizaine de personnes qui sont arrêtées, interpellées, mis en examen hein, avec lui, dont Ginette, sa secrétaire, qui a été interpellée mardi et placée elle aussi en garde à vue. Ça fait beaucoup d'informations qui commencent à apparaître. Hein. Il serait accusé de vouloir s'en prendre à Emmanuel Macron, au centre de vaccination, à des journalistes, des personnalités politiques et diverses, et puis aussi apparemment aux antennes 5G, parce que ça aussi c'est très très à la mode. Donc il y a un petit fond de coup d'État, de complotisme.
Ouais, c'est de l'extrême droite finalement radicale, traditionnelle.
C'est classique, hein, qui aurait voulu s'en prendre et à une loge maçonnique de l'Est de la France qui aurait voulu fermenter un attentat. Alors Rémi Daillet, il s'est fait connaître d'abord par l'enlèvement d'une petite fille, Mia, et c'est peut-être un peu ce qui lui a coûté finalement une renommée et aujourd'hui plein d'emmerdes avec la justice. Donc en France, on a donc Rémi Daillet, mais aux États-Unis d'Amérique, vous savez que peut-être que ce qui s'est passé en janvier avec l'assaut du Capitole, eh ben, il y a toujours une commission d'enquête hein, qui s'occupe de tout ça. Et là aujourd'hui, la commission d'enquête, elle s'est rapproché de Rudy Giuliani, John Eastman et de Steve Bannon, des proches de M. Trump, pour savoir si il n'aurait pas participé à de petites réunions dans un hôtel de luxe de Washington. Cet hôtel, c'est un hôtel assez classique on va dire, d'un certain conservatisme aux États-Unis d'Amérique. C'est le Willard Intercontinental. C'est juste à côté de la Maison Blanche et la commission d'enquête s'intéresse à des réunions qui auraient pu y avoir à ce moment-là, pour savoir si jamais ces trois personnes que je viens de vous citer auraient fait la liaison entre ce qui se passait à la Maison Blanche, les insurgés, comme souvent ils sont appelés, les manifestations Stop the Steal, hein, Stop au vol. Donc l'idée c'est ça, c'est de savoir est-ce qu'il y aurait une participation pour mener ces groupes d'intervention sur le Capitole. Alors, il faut dire aussi que la commission d'enquête peut-être s'est intéressée au livre de Bob Woodward et de Robert Costa du Washington Post, donc deux journalistes qui ont écrit un livre à charge hein, sur Trump, sur ses derniers jours à la Maison Blanche, et qui se sont intéressés aussi à ses réunions au Willard Hotel. Donc voilà, de partout un peu à travers le monde, il y a quand même ces groupes hein, d'extrême droite. On ne peut pas dire que M. Trump soit vraiment à droite, hein. Il me semble qu'il est plutôt à l'extrême droite. De savoir à la fois comment il mélange le complotisme, les fausses informations, et puis sur le terrain, comment peut-être il peut y avoir des liens avec des gens qui ont envie d'intervenir... pour certains, par la lutte armée. Voilà, et puis j'avais envie de vous lire le communiqué d'Amnesty International à propos de Hong Kong. Je vais vous le lire, vous allez voir, c'est pas très long, mais c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer sur ce territoire devenu chinois. Le communiqué s'appelle « Hong Kong, le cœur lourd, nous fermons nos bureaux ». Cela faisait 40 ans que nos équipes à Hong Kong œuvraient à la défense des droits humains dans la région. Aujourd'hui, nous prenons la douloureuse décision de fermer nos bureaux, car face à l'intensification de la répression des autorités, il devient trop risqué de poursuivre notre travail sur place. Depuis que la loi hongkongaise sur la sécurité nationale est entrée en vigueur, il est devenu de fait impossible pour les organisations de défense des droits humains de travailler à Hong Kong, librement et sans crainte de graves représailles de la part du gouvernement. Compte tenu de l'environnement répressif et de l'incertitude perpétuelle créée par la loi sur la sécurité nationale, il est impossible de savoir quelle activité risque de donner lieu à des sanctions pénales. Dans ce contexte devenu si instable, nous avons pris la décision, le cœur lourd, de fermer nos deux bureaux. Notre premier bureau local cessera ses opérations le 31 octobre, tandis que notre bureau régional mettra la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale en juillet 2020, nous alertons sur le net recul des libertés à Hong Kong et la détérioration rapide de la situation des droits humains. Cette loi a fait augmenter les menaces qui pèsent sur la société civile hongkongaise. Nous avons analysé les risques qui pesaient si nous restions à Hong Kong. Les risques étaient trop élevés pour y maintenir nos bureaux. Il nous aurait été impossible d'y travailler librement. Nous étions face à un dilemme. D'un côté, nous voulions conserver nos bureaux pour être plus près du terrain. De l'autre, nous n'étions plus en mesure d'assurer la protection de nos salariés et de nos militants. Si nous restions, le risque était de nous obliger à nous auto-censurer pour les protéger. Alors Cécile Coudriot et Agnès Colamar, respectivement présidente d'Amnesty International France et secrétaire générale d'Amnesty International, rappellent dans ce communiqué... 40 ans à Hong Kong, c'est quand même long, hein. Nous devons énormément à nos membres et salariés qui ont travaillé inlassablement pendant plus de 40 ans afin de protéger les droits humains à Hong Kong et dans la région. Nous avons par exemple mené campagne en faveur de l'abolition totale de la peine de mort à Hong Kong en 93. Nous avons ensuite documenté les recours excessifs à la force par la police durant les manifestations de 2019. La présence d'Amnesty International à Hong Kong a permis de mettre la lumière sur des violations des droits humains dans les périodes les plus sombres. Dans la région, nos recherches et nos actions ont porté sur des sujets tels que la liberté d'expression en Corée du Nord, l'objection de conscience au service militaire en Corée du Sud, le droit au logement en Mongolie, les atrocités commises par le Japon contre les femmes de réconfort en temps de guerre, la répression visant les avocats défendant les droits humains en Chine. C'est une manière de rappeler que depuis 40 ans et pendant une période de démocratie relative mais réelle en tout cas de travail pour ces organisations internationales, il y avait une possibilité d'agir aussi sur le reste de l'Asie, et que en fermant ces deux bureaux à Hong Kong, et ça fait déjà un endroit de moins pour avoir un œil sur ce qui peut se passer dans les pays aux alentours, et puis que ça fait surtout une organisation de moins à Hong Kong pour être aux côtés des militants et des militantes qui subissent la répression au quotidien. Voilà, je suis assez d'accord, c'est le cœur lourd quand même de fermer ce loco à bout de 40 ans de lutte dans un pays.
Un petit tour de quelques microsecondes en Cisjordanie, puisque 12 pays européens ont exhorté aujourd'hui Israël à renoncer à son projet de construction de plus de 3000 nouveaux logements pour des habitants dans les implantations. Implantation, ça veut dire colonie illégale, en Cisjordanie. Une initiative qui a été aussi dénoncée par les États-Unis. Je cite, nous demandons, alors c'est ces 12 pays européens qui parlent, nous demandons instamment au gouvernement d'Israël de revenir sur sa décision. Bon, ben voilà, qui c'est qui a dit ça? C'est 12 ministres des Affaires étrangères, Allemagne, France, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Pays-Bas et Irlande, dans un beau et magnifique et brillant et communiqué commun. Et que va-t-il se passer maintenant? Eh ben rien. Ces mêmes pays, tout à leur hypocrisie, ne remettront pas en question un truc très important, les accords commerciaux avec Israël. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de pression que l'Europe possède sur Israël, pour qu'Israël revienne dans le droit chemin quelque part, c'est-à-dire arrête sa politique de colonisation. Mais on ne fait rien. On fait juste des petits communiqués pour dire, regardez, nous, l'histoire nous jugera en étant du côté de ceux qui se font coloniser. Mais en fait, c'est de l'hypocrisie pure, puisque c'est des ils savent tous qu'un communiqué ne sert à rien. Et c'est donc juste pour dire à Israël, bah, continuez, on ne vous embêtera pas. Et je continue, parce que j'avais une deuxième info de suite. On va parler des multinationales du médicament qui sont sous pression et qui peut-être, sous cette pression-là, provisoirement, sûrement, change un petit peu. On le sait, elles subissent, on va dire, ces multinationales du médicament, la vindicte populaire. Pour plein de raisons, depuis très longtemps d'ailleurs. Alors, grosso modo, les multinationales de tous les secteurs, en fait, mais du médicament encore plus, quelque part. Pas parce qu'il y a la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid, bien évidemment. Et puis, surtout, les accès, l'inégalité des accès à la santé sont très très fortes à l'échelle de la planète, et on le voit encore plus en période de pandémie. Mais on sent un petit changement de paradigme. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait espérer. On va parler d'une info qui est tombée hier, donc on était le mercredi 27 octobre. C'est la multinationale de l'industrie pharmaceutique, bien connue, qui s'appelle Merck, qui a accepté de partager sa licence pour produire son médicament contre le Covid-19, le Molnupiravir, avec une ONG qui s'appelle Medicines Patent Pool, en anglais, c'est MPP, l'acronyme, une organisation internationale soutenue par les Nations Unies. Alors, à ce jour, ce médicament, c'est un médicament expérimental. Il s'appelle, donc, je répète, le Molnupiravir. Donc, c'est un antiviral. C'est pour ça que ça se termine par vir. Il n'a pas encore été approuvé par les agences du médicament, ni aux États-Unis, ni en Europe. Mais les deux organisations et plein d'autres, d'ailleurs, sont en train d'étudier l'efficacité du remède. Alors, du remède, avant d'autoriser une éventuelle commercialisation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit a été testé par le laboratoire. Laboratoire Merck, il y a une étude sur presque 1000 personnes, je crois que c'est 800, et ça réduirait de moitié les hospitalisations et les décès chez les patients ayant du risque, ayant contracté la maladie, mais qui présentent ils le prennent à la phase où elle est encore légère et modérée. Ça divise par deux les hospitalisations, c'est hyper important, c'est un bel outil pour continuer à lutter. Non, parce que ça serait un médicament, donc voilà, un comprimé, c'est condensé, c'est une pilule, ça peut se transporter à n'importe quel endroit de la planète. Le choix de Merck de partager sa licence, ça veut dire que le coût du produit va être faible. Actuellement, pour produire ce médicament, ça coûte à peu près $700 pour guérir quelqu'un par cycle de traitement, dirons-nous. Avec le passage dans cette ONG, le MPP, le Medicine Patent Pool, ça ferait chuter le prix du traitement à $10. On paye quasiment que les coûts de fabrication, du coup. Et ça, c'est intéressant. Donc, il y a une vraie volonté de faire ça. Alors, on sait que le laboratoire Roche l'a fait récemment sur une de ses molécules qui a des actions aussi contre le Covid-19. Et ils ont lâché les droits sur cette molécule. Donc, le partage de Merck, de Roche, et pour l'instant, ils sont tout seuls, de la propriété intellectuelle dans le contexte du Covid-19, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on sait qu'il y a plein d'entreprises qui font pas ça du tout. Et on a le cas des vaccins, Moderna par exemple, qui est le mauvais élève par excellence sur le Covid-19, qui vend pas de vaccins dans les pays pauvres. Enfin voilà, il y a quand même des gens qui, des multinationales, ou alors c'est Moderna, je sais pas si c'est déjà une multinationale, mais des fabricants de médicaments ou de vaccins qui jouent pas un jeu sympathique. Alors que là, Merck et Roche avant ont décidé de jouer le jeu, de soigner les gens avant de faire du bénéfice. Alors on n'est pas non plus hypocrite. On sait très bien que c'est dans le cadre de la pandémie, de la pression que subissent actuellement les multinationales du médicament, hein, que ce soit par tout le monde. Je crois que personne n'est là pour les défendre en ce moment, enfin sauf les libéraux et les capitalistes. Après, ça montre juste la limite. C'est une bonne solution si on accepte la limite du système capitaliste, c'est-à-dire que la production de médicaments soit confiée au secteur privé. Dans ces cas-là, c'est une bonne nouvelle. On pourrait imaginer un autre monde, bien évidemment, avec la santé qui serait du domaine du secteur public. On aurait beaucoup moins de soucis avec les brevets. Mais ça fait changer de paradigme. Si on garde le même paradigme, c'est une petite avancée. Et c'est important parce que ça peut potentiellement sauver des millions de personnes ou des centaines de milliers de personnes. Donc c'est un truc plutôt positif, ce qui n'arrive pas toujours. Et ce qui est drôle, ou drôle ou cyniquement triste ou cyniquement drôle, vous prenez, vous qualifiez ça comme vous voulez, c'est qu'actuellement les États membres de l'organisation l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, débattent toujours de la proposition qui avait été faite c'est en début d'année là par l'Inde et l'Afrique du Sud, de demander, ils avaient demandé à l'OMC de renoncer à toute la propriété intellectuelle sur tout ce qui touche le Covid-19, donc les vaccins, les traitements, etc. L'OMC discute toujours. Hein, on attend. Bah, donc, finalement, pour l'instant, la seule manière de faire que ça avance un petit peu dans le bon sens pour qu'il y ait un peu plus d'égalité en termes de santé au sujet de cette épidémie, et bah, finalement, c'est laisser aux multinationales, à la volonté des multinationales. Donc Merck joue le jeu, on n'est pas sûr que son médicament marche vraiment, hein, l'essai est quand même pas sur un très très grand nombre de personnes, même s'il est prometteur. Mais voilà, c'est juste pour signaler cette petite demi-bonne nouvelle.
Alors on va ouvrir une page un petit peu longue sur la consommation et les pratiques culturelles. Hier, nous avons entamé cette discussion avec nos amis et camarades de la causerie, hein, c'est le dimanche, 22h, 23h, et nous nous sommes demandé pourquoi les gens ne vont plus au cinéma, au théâtre, au concert, ou moins, en tout cas, et puis plusieurs questions aussi, en se disant, oh là là, quand même, il n'y a que des vieux quand on va au théâtre, dans certaines salles, qu'est-ce qui fait se déplacer les gens ou pas. Alors, pour continuer un petit peu cette discussion que nous avions eue en off, je vous propose d'en discuter un petit peu entre nous. Alors, il faut savoir que Roselyne Bachelot, madame la ministre de la Culture, devait nous donner les résultats d'une étude, d'une petite enquête, nous allons plutôt appeler ça, commandée auprès de l'Institut Harris Interactive. Alors, combien ça coûte ce genre de choses? Je ne sais pas, puisqu'on est quand même plus proche du sondage que de l'étude. Ça a été réalisé en ligne, c'est tout ce que j'aime, du 31 août au 3 septembre 2021, sur un échantillon de 3025 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, sur la méthode des quotas. Voilà pour vous dire un peu comment c'est.
C'est représentatif de la population française, mais celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet, du coup, ils sont interrogés comment?
C'est toute la différence aussi que les sociologues ont beaucoup analysé dans d'autres domaines, c'est à quel moment tu dis ou pas la vérité. Donc, il faut savoir qu'il y a des systèmes qui étaient mis en place par les sociologues pour, par exemple, parler des drogues ou de la sexualité, c'est-à-dire des sujets sur lesquels les gens avaient une tendance à mentir pour que les gens ne soient pas gênés quand c'est du face-à-face. Voilà. Et puis, le téléphone permettait quand même aussi un certain nombre de rapports. Et là, c'est vrai que tu cliques un peu comme tu veux, un peu vite ou pas d'ailleurs. La démarche n'est pas la même. Donc, à chaque fois, on peut remettre un petit peu en cause ces sondages. Mais en tout cas, il semblerait que ça soit quand même dans la lignée des résultats de ce qu'on a et dans d'autres sondages faits par d'autres, par des médias. Et puis, parce que semble un peu soulever les professionnels du spectacle et de la culture. Alors, la question était de savoir, est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils y vont, ils y vont pas? Alors, là, on sait qu'un Français sur deux, hein, et Française, bien évidemment, je vais pas revenir à chaque fois et vous le dire, que sur l'échantillon de la population, hein, je vous le rappelle, à chaque fois, ça serait toujours le même principe, ne se serait pas rendu, donc, une personne sur deux ne se serait pas rendu. Oui, je dis aussi une personne, moi, parce que le Français et le Français, j'ai jamais su quand t'es en ligne si on te demandait ta nationalité ou pas. Je réponds pas assez au sondage, en fait, ça doit être ça mon petit problème. Donc, une personne sur deux ne s'est pas rendu dans un lieu culturel depuis l'instauration du pass sanitaire le 21 juillet dernier. Est-ce que c'est lié au pass sanitaire ou pas? On va y revenir. On sait que la moitié, 51% des personnes qui allaient habituellement au cinéma au moins une fois par an sont retournées en salle, c'est-à-dire que l'autre moitié, elle n'y est pas retournée. Les habitués des musées, tout ce qui est monuments historiques, sont entre 40 et 45% à avoir repris le chemin des musées ou du patrimoine. Pas terrible hein, quand même, hein, tout ça. Et ça avait été déjà analysé dans une autre enquête du HuffPost, hein, qui avait fait un sondage aussi avec YouGov, il me semble, qui relevait que les gens retournaient assez peu, finalement, encore au musée. Et puis le secteur qui vraiment s'est pris une claque de chez claque, c'est le spectacle vivant. 27% des personnes interrogées sont retournées à un concert. C'est un peu plus que le théâtre, hein, parce que 25% seulement sont retournés au théâtre. Quant à la danse, le cirque, alors là, je vais dire, c'est des domaines qui s'écroulent. Et puis surtout, ce qui est très inquiétant, c'est un tiers explique qu'ils vont moins fréquenter les lieux culturels à partir de maintenant. C'est en fait, enfin, ça a été fait hein, cet été, ce sondage. On peut se dire, est-ce que c'est le résultat du pass sanitaire ? Alors, dans ce sondage, en tout cas, ce qui est mis en avant, c'est pas le pass sanitaire le problème.
Non, parce qu'il y en a qui disent qu'ils y retourneront pas, alors que le pass sanitaire va s'arrêter à un moment ou un autre.
Et puis, ouais, mais alors comme on sait pas, je te rappelle que là, le pass sanitaire, ils veulent nous l'étendre encore pendant un an.
Tant
donc, ça commence à être un petit peu long, quand même, cette affaire, hein, pour
sûr.
Des raisons basées sur, pour l'instant, un peu du rien, dans une perspective à 12 mois. Enfin, pardon, c'est pas le sujet du jour. Il semblerait que ce soit pas le problème du pass sanitaire, puisqu'il y a des endroits où le pass sanitaire a plutôt rassuré les gens d'aller dans les salles.
Ça a fait l'inverse, ouais.
Donc, c'est pas tant le problème. Donc, il y aurait quand même encore une peur, peut-être, pour certains et certaines de la contamination. Par le coronavirus, d'avoir peur d'attraper là ou le Covid. Et puis, on a surtout une réalité, c'est que 74% de ces sondés préfèrent des activités dehors.
Oui. Mais, en fait, le lâcher du Covid, la réouverture de tout, c'était à la période estivale. Les gens ont profité pour aller en terrasse, en fait, ou faire des activités physiques.
Ouais, ou plutôt aller dans des endroits où tu peux t'amuser en extérieur, sur des parcs ou des choses comme ça. Les festivals cet été, ça n'a pas été une grande réussite. Beaucoup ont été annulés aussi, parce que
ouais,
de peur,
c'était reporté.
Aussi, ouais. Mais en tout cas, on sent que là, il n'y a pas une envie. Alors, vous allez me dire, on a fait ça sur une été, c'était particulier. Mais en tout cas, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément retrouvé les salles. Même aujourd'hui, c'est dans ce que donnent un peu à voir les nouvelles études et les nouveaux sondages. Et donc, bon, on peut penser que peut-être que là, octobre, les gens se sont peut-être remis à aller au théâtre, au concert, un peu comme dans les salles de sport, finalement. Est-ce que les gens ont refait les démarches avec la rentrée ? Ce qui paraît que septembre, ça a été très poussif, très difficile. Il y a des domaines du spectacle vivant sur lesquels les gens n'arrivent pas à remplir leurs salles. Alors, on en a des mauvais bougres comme Trust qui annule toute une tournée parce qu'a priori, ça remplit pas. On sait pas bien si c'est vrai, si c'est pas vrai, à quel moment, en fait, il faut beaucoup d'argent pour que les tournées, elles restent. Est-ce que c'est vraiment dû au Covid ou pas ? Bon, tout ça, on n'a jamais un peu la réalité. Mais, en tout cas, il y a donc eu ces activités en extérieur qui ont mangé la part, cet été, en tout cas, du spectacle vivant, du cinéma et des musées. Les musées, ça marche bien, hein, l'été, hein, pour l'instant, pourtant, hein, normalement. On pourrait se dire que ça a repris, mais c'est pas forcément ce qui est renvoyé aujourd'hui par les professionnels du spectacle. Et puis surtout, il y a une réalité qui apparaît dans le sondage, c'est que il y a des sondés qui se tournent vers la culture du numérique, qui vont donc s'abonner à des plateformes en ligne, à de la musique en ligne, à du cinéma en ligne, à des séries en ligne. Et tout ça prend beaucoup de place sur le reste de la consommation culturelle.
Ouais, et puis après, du coup, c'est très générationnel, hein, puisque quand on va dans les spectacles, au théâtre, la moyenne d'âge, elle n'est pas de 25 ans.
Non, mais ça a toujours été. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un problème de renouvellement des spectateurs et des spectatrices, en particulier, par exemple, pour le théâtre, le jazz, la musique ancienne ou la musique classique. On sait que c'est très compliqué.
Ouais, du coup, à terme, le secteur semble condamné.
Alors, ce qui est marrant, parce que moi j'ai retrouvé des enquêtes sur les pratiques culturelles qui sont faites à peu près pour tous les 10 ans, celle de 2008 qui s'intéressait donc aux 10 années précédentes, puisque celle l'enquête d'avant datait de 1997. En 2008, cette enquête très poussée, hein, là pour le coup on n'est pas sur un sondage, la question internet et numérique était déjà sur le devant et déjà dans les questions. C'est est-ce que ça allait changer les pratiques de la consommation, parce qu'on est dans une consommation et plus justement dans une pratique d'accès donc à la culture. Alors à la fois ça démocratise, parce que c'est vrai que c'est plus facile. On sait que ce qui gêne, c'est pas tant le prix quand on va à l'opéra que le fait de se dire oh, est-ce que je peux y aller ? Est-ce que je suis assez bien habillée ? Est-ce que la programmation, elle est pour moi ? Est-ce que je vais pas me sentir perdue ? Aller à l'auditorium, c'est un peu le même problème. Même si on sait qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui ont un accès, quand on fait du Star Wars, par exemple, à l'auditorium, on sait que tout un chacun, tout un chacune peut aller écouter ça. Mais il y a toujours un petit peu la crainte d'être déplacé dans ce genre de rendez-vous, ce qui est bien dommage. Mais c'est une réalité qui sort sur toutes les enquêtes, hein, qui ont été faites sur les pratiques culturelles en France. Donc déjà, à l'époque, on avait ce phénomène qui arrive. Et puis, il y a une réalité qui vient depuis longtemps maintenant, c'est que cette consommation, elle prend de l'argent aussi. C'est-à-dire que quand tu dois t'acheter un abonnement de téléphone mobile avec ta 4G, ton machin internet, ben ça coûte. Quand tu as un abonnement Netflix, Amazon Prime ou juste Disney, ça coûte. Quand tu vas rajouter un Deezer, un Spotify, j'essaye de ne pas faire de la spécificité, ça coûte aussi. Donc tout ça, c'est de l'argent que tu mets dans ton budget, que tu ne mettras pas ailleurs. On sait que ce qui était d'abord impacté par ces dépenses, c'était l'alimentation. Les gens mangeaient plus mal quand ils dépensaient plus pour le numérique. J'ai pas vu de nouvelle enquête sur ce phénomène, mais je pense pas que ça ait beaucoup changé, hein, parce qu'il faut bien prendre, enfin, nos pouvoirs d'achat, comme disent les politiques, n'a pas évolué. On a toujours le même pognon dans notre
cagnotte. Ça dépend des gens, mais oui, globalement, oui.
Ah bah globalement, on n'a pas bien. On est toujours, même si tu vieillis et tu gagnes un peu plus que quand tu avais 20 ans, globalement, t'es pas bien plus riche aujourd'hui. Donc, ton argent, et en particulier quand t'as 20-30 ans, quand tu le mets plus sur ces plateformes, tu n'iras pas forcément le mettre ailleurs. Et pourtant, c'est à ces âges-là où tu le trouves le plus d'offres à bas prix dans le spectacle vivant. Donc c'est un phénomène. Alors on sait aussi qu'il y a des choses numériques qui changent avec le livre, par exemple. C'est alors déjà il y a l'arrivée du podcast, hein, ces phénomènes où il y a des gens qui enregistrent des histoires, créent des tas de petites choses. Et puis on a l'audiolivre. Ça c'est un phénomène qui
ça marche.
Alors en France c'est pas le premier pays parce qu'on reste quand même un pays du livre papier, mais c'est en plein développement. C'est assez incroyable, en Europe ça se développe bien. Au Japon par exemple c'est très développé, j'ai trouvé une étude là-dessus. Il y a aujourd'hui des maisons d'édition qui se spécialisent dans l'audiolivre, et il paraît que c'est une consommation qui... c'est vrai que on devient paresseux et paresseuse, non, peut-être
c'est ça,
aussi.
C'est un truc de paresseux.
Bah non, parce qu'il y a un vrai plaisir, il paraît, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment du savoir-faire pour te raconter des histoires.
Ça, on n'en doute pas.
Donc il y a un vrai plaisir pour certains et certaines de vraiment de mettre ça à l'audio, de te raconter quelque chose, et donc tu peux y trouver du plaisir. Mais il y a aussi un phénomène effectivement de facilité. Tu vas écouter ça dans ta bagnole,
voiture, dans ton transport
dans
en commun,
dans ton transport en commun, sous ta douche, dans ton bain, en faisant la cuisine. Voilà, donc c'est un moment où en fait c'est multitâche. Toi, tu n'es plus juste avec ton livre, ou tu peux écouter aussi de la musique, mais c'est vrai que ça rend les choses bien plus multitâches. Et donc le papier reste quand même en Europe évidemment prioritaire, avec la version numérique. Et puis ensuite on voit arriver l'e-book, ça arrive derrière, mais c'est vrai que là aussi on a une part du marché qui est en train de se modifier, hein, quand même aussi sur cette consommation. Mais ce qu'on voit c'est que quand même il y a une modification du rapide. Quand vous, pardon hein, mais je vais peut-être être méchante avec vous, toi là, si je sais que c'est toi là qui fais ça, qui m'écoute, quand tu regardes ta série sur ton petit téléphone dans le métro avec ton petit casque, me dis pas que c'est quand même vachement classe de faire ça. Non, mais tu peux pas me dire que c'est bien, c'est pas vrai. On perd quand même du sens aussi, et puis c'est entre deux stations. Enfin voilà, il y a une consommation qui est quand même un peu différente, et c'est là où Netflix se fait aujourd'hui taper sur les doigts. C'est très drôle quand même le cinéma en France, comment on est quand même dans des trucs un peu clic-clac-clouc, c'est fermé. Alors Netflix a annoncé vouloir faire le Netflix Film Club du 7 au 14 décembre prochain. Ça serait donc une sélection de longs métrages originaux produit par Netflix, qui serait diffusé dans des salles de cinéma. Alors, beaucoup de choses ont été... beaucoup de lieux, plutôt, que de choses, ont été cités. On a pu entendre parler de la Cinémathèque française, de l'Institut Lumière, des Cinémas Lumière à Lyon, des MK2, Utopia. Personne ne semble, pour l'instant, s'afficher, très ouvertement.
Quelque part, c'est Netflix qui avoue que ces films, ils seraient peut-être mieux en grand écran.
Alors, j'aime beaucoup ton analyse, parce que c'est pas l'analyse de beaucoup de gens. Donc j'aime beaucoup ton analyse.
Moi, je l'avais pris comme ça au début.
Je trouve ça intéressant. L'idée, ça serait donc de sortir plusieurs films qui sont déjà sur la plateforme, et de proposer en avant-première, pendant ce mini-festival, des films qui seront ensuite disponibles sur la plateforme. Alors, en France, comme je vous le disais, on aime bien tout de suite gueuler. Alors déjà, il faut savoir que le syndicat du cinéma d'art, de répertoire et d'essai, le SCAR, c'est le film français qui nous rapporte ça, c'est opposé à l'organisation de cet événement, mais laisse le choix à ses adhérents de bien vouloir faire ce qu'ils et elles veulent. Ça me fait bien rigoler. Mais par contre, le syndicat des distributeurs indépendants et les distributeurs indépendants européens réunis ont publié le 25 octobre un communiqué, parce qu'ils sont pas contents. Ils sont choqués d'apprendre la tenue d'un festival Netflix. Ce qui est marrant, c'est que dans le communiqué, le mot festival Netflix est entre guillemets. Je sais pas si c'est pour être un peu insultant ou parce qu'ils savent pas bien quoi en faire, je sais pas, c'est peut-être une... Bon, je sais pas bien, une syntaxe. Hein. Donc pour eux, c'est anormal que cela puisse se passer, puisqu'ils vont jamais sortir en salle après, donc c'est un peu dégueulasse qu'ils aillent au cinéma. Et puis, alors, faut dire qu'ils ont un peu les boules, les distributeurs, vous m'excuserez de cette expression, mais parce que Netflix a le dernier film de Jeanne Campion, quand même, grande réalisatrice, et que c'est pas le premier ou première personnalité du cinéma que Netflix arrive à recruter. Mais il faut dire que Netflix met de l'argent, mais en même temps, ils produisent avec du pognon. Plus personne ne veut mettre autant d'argent dans des films en France ou même à l'étranger, hein, pour ce qui concerne Jane Campion, où on a eu Scorsese, enfin bon. Voilà, donc on sent quand même que ça chouine un peu du côté du cinéma français.
Netflix, avec son truc entre deux, il essaye d'escroquer tout le monde quelque part. Enfin, je veux dire, moi je dis, ils avouent que leur film serait bien sur le grand écran, mais ils font pas ça pour le plaisir de l'art. Hein.
Alors, je te lis quand même, ouais, parce que ça chouine. Chers exploitants qui participaient à cette opération, avec qui nous avons vécu tant d'aventures, de succès et d'insuccès, tant d'émotions, vous rendez-vous compte de l'engrenage dans lequel vous vous engagez? Vous rendez-vous compte qu'une attraction à court terme de vos spectateurs est un suicide à moyen terme pour nos professions respectives? Face à de tels choix, comment continuer à défendre à vos côtés le principe d'une exclusivité de plusieurs mois pour vos salles dans une nouvelle chronologie des médias qui saura intégrer les plateformes à notre écosystème en respectant l'ordre des fenêtres de diffusion? Bon, comment dire, moi je suis d'avis avec toi. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement ça peut donner envie aux gens d'aller voir un peu plus de cinéma en salle et non pas que sur... beaucoup de gens aujourd'hui regardent quand même du streaming... légal ou pas légal, sur un écran d'ordinateur tout petit. Enfin, ça veut dire, il y a un moment, il y a peut-être aussi le plaisir de retourner en salle. Mais c'est certainement pas avec ce genre d'argument pourri de protectionnisme, oui, qu'on va faire revenir les spectateurs et les spectatrices.
Ouais, je suis d'accord. Ils ont faux sur la manière de se battre contre Netflix. Mais en fait, je pense qu'ils sont plus paniqués qu'autre chose.
Alors, il y a aussi des gens qui me font marrer parce qu'il y a des gens qui soutiennent, hein, donc ce communiqué. Et j'ai par Maxime sur Twitter qui dit: le cinéma est censé être universel, accessible à tous. Il faut choisir la salle ou le streaming. Enfin, c'est pas un service public, le cinéma. Ouais, déjà, c'est pas universel.
Il y a pas de salle de cinéma.
Il faut s'enlever ça de l'art, que ce côté un peu. Voilà. Mais bon, on attend de savoir quelle salle va donc officialiser son partenariat avec Netflix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va peut-être aussi falloir que le cinéma se remette aussi en question, parce que là, on a quand même un John Wick 4 qui s'annonce, un Buzz l'éclair, donc une suite, hein, de Toy Story. On a un Dune 2, hein, ça y est, c'est fait, un Venom 2. Enfin, je veux dire qu'il y a un moment, si on veut aussi donner envie d'aller au cinéma, il faut peut-être aussi se mobiliser un tout petit peu quand même.
D'être un peu inventif, tu veux dire? Dune 2, c'est la suite, hein, il avait fait clairement...
Ouais, non, mais je veux dire, d'accord, mais aujourd'hui, ils vont peut-être faire un Dune 3 parce que ça serait vraiment bien. Et il va y avoir une série issue de Dune. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du pognon quand même. Voilà.
Les enfants de Dune, il y a tout ça là derrière. Oui, il y a 15 romans.
Mais bon, 15, voilà, 6, voilà. 6 ou 7. Un peu de création originale, parce que c'est ce que fait parfois Netflix.
François, tu veux parler?
Non, allez, on passe.
Ah, tu passes. Hop, ouais, passe. Non, mais moi, j'ai juste une brève info parce que ça m'a tellement énervé que ça m'a fait rire quelque part. Sur le dernier Astérix, c'est sorti, hein, Astérix et le Griffon, qui a été qualifié donc de culture woke. Vous savez, le woke, c'est quand vous êtes égalitariste, progressiste, tout ça, et que ça ne plaît pas à l'extrême droite, ça s'appelle la culture woke. Tout ça parce que Astérix, Obélix, Idéfix et toute la bande, pas toute la bande d'ailleurs, ils y vont pas tous, ils vont du côté des Sarmates, un peuple du nord de l'Europe où il fait très froid. Et les Sarmates, c'est une réalité, en fait, c'est les femmes qui étaient guerrières, en fait. Et donc, dans la BD, si tout est inversé, c'est fait exprès, hein, ça, je rappelle, hein, c'est du Astérix Obélix, c'est une BD d'humour, avec du premier, du deuxième, du cinquième, du dixième, du 2000e degré, ça part dans tous les sens, il y a presque un jeu de mots par réplique, ben voilà. Et ça a énervé certains que les femmes, ce soit elles qui dirigent et qui aillent faire qui soient les guerrières ou les chasseuses. Mais en fait, il y a une réalité quand même que ce peuple des Sarmates, enfin, c'est ce qu'on pense depuis un petit moment déjà. Donc voilà, ça me fait plaisir que ça ait énervé une partie de l'extrême droite. Il faut savoir qu'Astérix et Obélix, c'est toujours un truc très compliqué pour l'extrême droite. Toutes celles et ceux qui nous font croire, qui répètent à longueur de discours que la France, que les racines de la France sont des racines judéo-chrétiennes, avec Obélix et Astérix, ça tombe à l'eau parce qu'il n'y a pas de chrétiens. Donc du tout, on rappelle qu'effectivement, alors la France où ça n'existait pas, c'était la Gaule et puis c'était un bout du territoire, etc. Enfin, en tout cas, les gens qui habitaient dans ce truc-là, bah, ils avaient plein de religions, voilà, animistes, on dit en général, le christianisme. C'est une religion importée qui a envahi et phagocyté et détruit tout le reste d'ailleurs, hein, toute la culture qu'il y avait associée aux autres religions qui était essentiellement dont tout était oralisé et pas du tout sous forme d'écrit. Il y a un gros travail de destruction de la mémoire de la part de l'Église catholique quand elle est arrivée en France et dans plein de pays d'Europe. Et donc ça a toujours énervé un peu les fachos Astérix Obélix sur ce plan-là, même s'ils ont des fois essayé de récupérer parce que c'est un peu franchouillard Astérix Obélix. Et Et en fait, ils arrivent jamais bien, et ça, c'est un truc qui fait toujours plaisir. Voilà, moi, voilà, je suis bon public, j'adore Astérix Obélix. Je pense que le duo Jean-Yves Ferry et Didier Conrad est vraiment excellent. Hein. Ça faisait au moins 15 ans qu'on n'avait pas eu des Astérix de ce niveau-là. Il y a des jeux de mots incroyables. Ça parle même de conspi sur un bout de planche. Enfin, voilà, c'est plutôt bien fait. Et si ça énerve les fachos, c'est une bonne chose.
Tu voulais nous parler un petit peu d'homophobie?
Ah oui, tu veux que je fasse ça maintenant?
Oh bah, comme tu veux, je peux continuer si tu veux.
Un truc très court, c'est Jean-Michel Maugendre, directeur de la publication du site d'information Renaissance Catholique, qui comparaissait le 18 octobre dernier au tribunal correctionnel de Paris. Il avait publié un article en juin 2019, et trois associations LGBT, suite à cet article, avaient porté plainte contre lui pour, je cite, « provocation à la discrimination à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle ». L'enjeu du procès, en fait, c'était de définir si le texte publié par ce truc de Cato un peu coincé, là, Renaissance Catholique, est-ce que ça incitait ou non à la discrimination envers les personnes homosexuelles. La réponse a été assez surprenante, et c'est ce qui m'a donné envie de vomir, comme tu disais tout à l'heure. C'est la procureure de la République qui a estimé que c'était pas le cas du tout. Elle estime que pour caractériser l'infraction, il faut montrer qu'il y a une exhortation, un appel à discriminer un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle, et elle, en tant que procureure de la République, elle voit pas ça. On va relire ensemble le passage, et on va voir si vous avez le même avis qu'elle ou le même avis que moi. Donc ce passage stipule, je cite, que les autorités civiles ne doivent pas établir d'union civile ou légale entre deux personnes du même sexe. Jusque-là, ils ne sont pas d'accord, etc. Et là, attention, puisque de telles unions encourageraient le péché grave pour les personnes concernées et seraient cause d'un grave scandale pour d'autres. Bon, bref, ça laisse entendre quand même que l'homosexualité, c'est le mal et que l'État doit agir en conséquence. Et dire que des personnes par leur orientation sexuelle représentent le mal, c'est quand même bien s'attaquer à elles. Et ça, la procureure de la République l'a pas vu, l'a pas voulu le voir, vraisemblablement. Donc voilà. Alors elle explique, la procureure, que ses propos sont à remettre dans leur contexte. Car le texte qui a été publié sur ce site horrible a pour vocation, je cite, de faire connaître l'enseignement de l'Église. Il est issu d'ailleurs d'une note issue de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui avait été éditée en juin 2003. Donc pour le ministère public, il s'agit plus d'une expression de la doctrine de l'Église qu'une réelle exhortation à ne pas célébrer les mariages pour les personnes de même sexe. Ouais, mais si c'est l'expression de la doctrine de l'Église qui dit que l'homosexualité, vous êtes le mal, et que vous présentez un danger ou je ne sais quoi, c'est quand même pas super sympathique. Mais là, elle a rien voulu entendre. C'est ce qui a fait plaisir d'ailleurs à maître Jérôme Triomphe, qui était l'avocat de la défense, qui de toute façon lui était parti sur le truc en disant c'est pas un procès de l'homophobie, mais c'est en fait un procès de la christianophobie, parce que pour lui, les trois associations LGBT étaient christianophobes. Hein, elles peuvent l'être, hein, on l'est nous ici, mais le rejet de la religion n'était pas en fait porté par ces groupes LGBT, donc on peut pas les accuser de christianophobie. Elles rejetaient le texte en fait qui était écrit. Voilà. En conclusion, ce que dit la justice aujourd'hui, c'est que la doctrine de l'Église est inattaquable, même si elle est ouvertement homophobe, ce qui est le cas ici, comme le sont certains passages de textes chrétiens dans la Bible, l'Ancien Testament, tout ça, qui ont jamais été interdits, jamais on a demandé quoi que ce soit. Hein. Donc il y a une tolérance énorme. Le soutien de l'État, puisque c'est de ça dont il s'agit, à travers le bras armé de la justice, son bras armé qu'est la justice, l'État vient soutenir l'Église catholique en lui disant « Tu peux continuer, toi, Église catholique, à tenir ce genre de propos, à dire que l'homosexualité, c'est mal. » C'est ça que ça veut dire ce jugement. Et c'est là où c'est triste, et même bien plus que triste, horrible et gerbant. Hein. On se rappelle, de toute façon, que l'institution catholique a protégé plus de 3000 criminels, sans poursuite, sans interdiction, sans sanction. C'est la plus grosse organisation criminelle en France.
Et on va terminer en vous parlant de
C'est quoi ?
Comment dire ? Alors, on va parler de Thierry Casanova. Vous savez, c'est ce naturopathe qui est donc soupçonné d'exercice légal de la médecine, qui a été.
Je sais pas pourquoi tu dis soupçonné. C'est
un petit peu déjà arrêté. Il avait donc une chaîne YouTube qu'il a fermée en mi-juin, puisqu'il expliquait être épuisé par le harcèlement dont il était l'objet, et en particulier par la Miviludes, hein, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qu'il appelle la police de la pensée. Alors, ce naturopathe aime manger donc cru,
Oui, il a le droit.
Il a le droit.
Il fait ce qu'il veut avec les légumes.
Voilà. Je reviendrai après sur l'extracteur de jus, peut-être. Enfin, juste, j'en ferai une petite remarque. Donc, c'est le parquet de Perpignan qui avait ouvert une information judiciaire avec pour l'exercice illégal de la profession de médecine, de médecin, excusez-moi, abus de faiblesse et pratique commerciale trompeuse, justement, avec son fameux extracteur de jus. Et c'est quand même quelqu'un qui a expliqué que le coronavirus, il l'aurait, lui, réglé, je cite, rapido. Bain froid et jeûne pour tout le monde, un petit jus de carotte et vas-y que je t'envoie. C'était donc sa solution.
Le jus de carotte contre le corona, quoi.
Ah ben, mais c'est sur le cancer, ça fait partie de ces gens qui ont des grandes, des belles idées, absolument magnifiques. Et donc, il y a l'Association nationale de défense des victimes des sectes qui avait porté plainte contre ce youtubeur qui, quand même, avait une foule assez importante. Il faut savoir que quand on regarde ses soutiens, il y a quand même, j'ai trouvé ce message qui dit que c'est tristement intéressant de réaliser que l'on poursuit en justice quelqu'un qui prône jeûne, légumes sains, bain froid. C'est pas pour ça qu'il est, il est poursuivi. Et c'est là où il
c'est
faut arrêter.
Qu'il dit que ça que soigne des maladies.
Et ce que n'est pas vrai. Ouais. Et qu'en plus, il se place à la place des médecins. Et il n'a pas le droit de le faire. Donc voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. En tout cas, ce monsieur, il est peut-être plus là aujourd'hui de la même manière. Mais il y en a d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, quand on les écoute, il n'y a pas de spiritualité. D'abord. C'est d'abord le bien-être, la santé, c'est l'alimentation, c'est tout ça. Et puis ensuite, ça vient. Il faut se souvenir que Thierry Casanovas, il avait une révélation, il expliquait, et qu'il avait trouvé la guérison à 33 ans. C'est marrant comme âge.
C'est le hasard.
Voilà, donc après ces publications du Monde sur l'anthroposophie, qui a scandalisé quand même une partie des lecteurs et des lectrices.
Autre dérive sectaire.
Cet été, qui était quand même absolument scandaleuse, mais scandaleuse. Moi, je vous invite à suivre quelques personnes et groupes sur les comptes Twitter. Alors, il y a l'extracteur, Bah ouais, c'est du nom de cet extracteur de jus qui nous parle de tous ces affabulateurs, menteurs, menteuses, complotistes qui se font si beaucoup d'argent sur le dos de ceux et celles qui peuvent être malades, par exemple, en situation de difficulté, ou ceux et celles qui croient bêtement à des choses, parce que ça a remplacé Dieu quand même dans le cœur d'un certain nombre de leurs suiveurs. Tico Skep, que j'aime beaucoup, c'est la petite voix qui va reprendre des vidéos faites par ces hommes et ces femmes, et puis va ajouter sa petite touche personnelle au-dessus de leur grand discours. C'est souvent extrêmement drôle, oui, c'est humoristique, c'est drôle, mais c'est souvent assez pointu, et ça permet de saisir tout ce qu'on nous raconte comme bêtises. Et il y a des gens comme ça, je suis en train de chercher son nom parce que je l'ai paumé sur Richard Bidule là. Il y a plein de gens comme ça qui inondent YouTube, en particulier. YouTube ne fait aucun ménage. Aucun.
Enfin, de temps en temps, ils ferment une chaîne, mais quand c'est trop visible.
Voilà, quand c'est trop antisémite, par exemple. Alors, un truc, justement, je vais poursuivre avec ce racisme et l'antisémitisme. Un compte Twitter que j'aime beaucoup qui s'appelle Action Antifouchiste. Alors là, c'est assez simple. Faut-il séparer le Fouché du facho? Fouché, c'est Louis Fauché, donc nos Foucharanes, autant vous le dire. Donc ça reprend toute l'imagerie, les symboles de la lutte antifasciste, mais parce que la vraie question, elle est là, c'est que certains de ces complotistes et certaines de ces complotistes sont assez proches des mouvements d'extrême droite, conservateurs, religieux et intégristes, et que donc il faut les dénoncer. C'est ce que fait l'Action antifouchiste. Et en plus, c'est des réseaux souvent aussi locaux qui vont aller chercher sur place, qui les entourent. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ou on peut aussi suivre Tristan Madness France, qui aujourd'hui m'a fait découvrir Irène Grosjean, naturopathe, et qui écrit « Au purée, je parcours le bouquin de la star de la naturopathie sur YouTube, Irène Grosjean, qui explique notamment l'origine des génocides par l'alimentation des bourreaux. Comment des libraires de la FNAC ont pu attribuer 3 cœurs à cette bouillie obscène. » Et voilà, c'est ça aussi l'intérêt de ces
comptes. Suivant ce que tu manges, tu deviens bourreau. Alors, si tu veux, il y a des bourreaux qui étaient viandards, il y a des bourreaux qui étaient végétariens. C'est
très courte, c'est qu'elle fait des liens entre la Shoah et l'alimentation, les génocides et l'alimentation. Elle est
Voilà. Tu veux dire qu'en fait la Shoah c'est parce qu'Hitler était végétarien.
Mais voilà, mais c'est comme ça aussi que grâce à certains de ces relayeurs et relayeuses, j'ai pu apprendre que Guillaume Canet s'intéressait donc au taux vibratoire et je savais pas bien ce que c'était que le taux vibratoire. Donc je me suis remis dedans, mais on apprend aussi comme ça que Marlène Schiappa avait été approchée par Métamorphose Podcast. Ça c'est un grand moment hein, aussi Métamorphose Podcast hein, avec des sophrologues, naturopathes, guérisseuses, chamanes. Bon, elle s'était fait un peu taper sur les doigts tout de suite et mise en avant, mais les photos et tout ce qui pouvait lier Marlène Schiappa à cette femme, Anne Guesquière, ont été supprimées hein, du compte Instagram. Mais voilà, mais c'est-à-dire que même nos politiques...
Il y a pas mal d'études là, qui sont sorties sur ce retour des sectes par la voie du complotisme et des naturopathes, tout ça. On se rappelle, hein, en fait, il y avait les sectes traditionnelles. À la fin des années 90, est arrivé le mouvement New Age, où c'était un peu les prémices de ce qu'on voit maintenant avec ces naturopathes. Ce mouvement New Age avait en créé pas mal de dérives sectaires aussi. Et aujourd'hui, avec le mouvement complotiste, tendance anti-vax, naturopathe, et tout ça, on a à nouveau des dérives sectaires où on avec des vraies dérives sectaires et des trucs juste de l'escroquerie, hein, parce qu'on te vend un anneau qui te soigne. On a l'impression de retomber dans les années 80 avec Daniel Gilbert qui vendait sa bague magique. Et ça existe toujours. Il y a toujours des gens qui vont dire qu'il y a une pierre qui soigne, il y a un machin qui soigne. Et on n'a pas évolué, en fait. Enfin, on n'a pas. Il y a une partie de la population qui se laisse encore escroquer par ces trucs irrationnels qui sont juste risibles, en fait.
Bah, si vous voulez vous marrer sous champi, vous pouvez donc regarder les vidéos de Richard Boutry. Vous verrez, vous ferez comme la petite voix. C'est mort de rire quand même quand ces gens en arrivent à parler de Mozart pour nous parler de leur délire dans leur cerveau. C'est je vais dire, mais champi, c'est eux qui les ont mangés. Hein, quoi.
Donc voilà, il est 20h02, on va vous laisser, enfin 20h01 même. C'est la fin de ce Canu Info. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine.
Mais bien évidemment.
Et on vous laisse en ton compagnie des bandes continues de la plus rebelle des radios.
Ciao, ciao.
Bye bye.
Voilà, c'est Zahir Amias.
Alors des fois l'enchaînement des bandes continues, c'est juste quand quelqu'un vient de parler, c'est un peu bizarre, mais tout va bien.
C'est moche un peu. Hein.